Gloire à Dieu. On va ensemble ouvrir la parole de notre Seigneur. Il est celui qui sait ce qu'on a besoin d'entendre. Il est celui qui connaît nos cœurs. Il est présent ici, présent dans nos vies. Et nous voulons dire « Parle, Seigneur ». Nous avons besoin que tu parles. Comme disait un vieux cantique « Parle, bien-aimé Maître ». Parle, bien-aimé Maître. Parle, car ton serviteur écoute. J'aimerais lire avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 8, et nous lirons à partir du verset 7. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Si vous voulez, on va essayer de relire ce verset ensemble. Je le relis. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Je ne sais pas comment vous comprenez ce verset. En tout cas, ce verset m'a souvent amené à me poser des questions. Peut-être je ne me serais pas posé ces questions si Paul avait écrit ça, allez, on va dire aux Philippiens. Je ne me serais peut-être pas posé cette question. Mais Paul dit aux Corinthiens, quand même dire que c'est aux Corinthiens qu'il écrit ça, il dit aux Corinthiens qu'ils excellent en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance et dans leur amour pour eux. Ils excellent en toutes choses. Dites-moi quand même les Corinthiens. Vous connaissez les épîtres aux Corinthiens, on en parle souvent des Corinthiens. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Corinthiens n'excellaient pas en toutes choses. Et parce que on voit que l'apôtre Paul est obligé de les reprendre par rapport à certains points, par rapport à leur comportement, il va les reprendre. Quand on lit ces deux épîtres aux Corinthiens, on voit quand même qu'il y avait des choses à rectifier dans cette église, oui ou non? Alors vraiment, ce verset m'a fait amener plusieurs fois des questions. Pourquoi Paul dit que vous excellez en toutes choses, en foi, parole, en connaissance, en zèle à tous égards et en amour? Ça nous amène quand même à réfléchir sur ce que l'apôtre Paul appelle l'excellence. Qu'est-ce qu'il appelle l'excellence? Est-ce que Paul met les mêmes critères d'excellence que les critères qui existent dans ce monde aussi? C'est ce dont nous allons nous entretenir ce matin. Et si nous n'avons pas le temps, on continuera dimanche prochain. L'excellence. L'excellence selon Dieu, l'excellence selon le monde. Quand on parle d'excellence, on ouvre un peu le dictionnaire, c'est ce que j'ai fait, et on voit selon les différentes définitions que l'excellence est un très haut degré de qualité. Très haut degré de qualité. Ce concept, j'allais dire, d'excellence comporte aussi l'idée de supériorité. On a été supérieur dans un domaine à la norme. On a été supérieur. Il y a aussi une idée d'abondance. Une idée d'abondance. D'abondance de qualité, d'abondance de talent, d'abondance dans les choses que nous faisons. Dieu est celui qui est parfait, n'est-ce pas? Et il est aussi excellent. Il est parfait et il est excellent. Il est parlé de l'alliance qu'il a fait avec nous. Dans l'Épître aux Hébreux, on voit qu'à deux reprises, celui qui a écrit cette Épître aux Hébreux parle de cette alliance que Dieu a fait avec nous, qui est plus excellente que celle qu'il avait fait avec le peuple d'Israël, avec Moïse, avec la loi de Moïse. L'alliance de la grâce qui se trouve dans Christ, en Jésus, qui est monté sur la croix pour nous, elle est plus excellente. L'autre alliance, celle d'avant, était l'ombre des choses à venir. Elle est plus excellente, elle est plus excellente. Dieu est excellent, il est parfait. Et il est même dit que, Jacques le dira, que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est parfait et les grâces qu'il déverse sur son peuple, elles sont excellentes. Et ses dons sont parfaits. Que Dieu soit béni. Et merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour cela. L'apôtre Paul invite donc les Corinthiens à exceller dans une œuvre de bienfaisance et il faudrait lire le chapitre 8 et le chapitre 9. Il y a eu un besoin qui s'est montré dans les autres églises et donc il y a eu un appel à la générosité pour aider leurs frères et sœurs qui étaient dans le besoin et l'apôtre Paul les invite à exceller dans cette œuvre de bienfaisance, de la même manière qu'ils avaient par avant excellé en toutes choses, en foi, en zèle, en connaissance, en parole, et donc en toutes choses comme il le dit. Après avoir dit que Dieu est excellent et que ce qu'il fait est excellent et parfait, j'aimerais quand même préciser que l'excellence, selon le monde, n'est pas l'excellence selon Dieu. Et là, nous avons déjà un point, j'allais dire, de solution par rapport à ce verset lorsque l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, alors que nous, on n'aurait peut-être pas écrit ça, « Vous excellez en toutes choses ». On parle beaucoup dans le monde d'excellence, où il faut être excellent. Il faut être excellent dans le travail, n'est-ce pas ? Dans le monde, l'excellence est recherchée. On ne recherche pas la médiocrité, on peut se contenter de médiocrité. Mais si on se contente de médiocrité, voilà, peut-être que l'avancement professionnel ne se fera pas, probablement pas aussi rapidement. L'excellence selon le monde est recherchée, mais dans la plupart des cas, je dirais peut-être pas dans 100% des cas, mais dans la plupart des cas, c'est parce qu'il y a une gloire qui est recherchée, une gloire humaine qui est recherchée. On veut montrer qu'on est excellent, qu'on est supérieur aux autres dans ce que l'on fait, pour démontrer sa supériorité, ou peut-être pour l'appât du gain. Peut-être alors là que l'excellence est recherchée pour satisfaire une certaine convoitise qui est là, ou satisfaire un orgueil. Or, la parole de Dieu nous parle de ça. Jésus, dans Matthieu 6, mais aussi dans d'autres textes, nous parle de certaines personnes qui font les choses pour être vues. C'est ça l'excellence selon le monde. Où on cherche à exceller pour être vu. Et quand bien même il serait vrai qu'on excelle, on peut exceller dans même un service qui nous est confié dans l'Église, on peut exceller dans ce qui nous est confié, mais quelle est la motivation? Est-ce qu'on cherche à être excellent pour être vu, pour une gloire humaine, ou pour la gloire de Dieu? L'excellence, selon le monde, est parfois, produite par rapport à la jalousie, par rapport à l'envie, par rapport au fait de se comparer aux autres, où il faut toujours être performant. Or, l'Ecclésiaste nous dit, dans chapitre 4, on peut lire ce verset, ce verset, Ecclésiaste chapitre 4, verset 4. Ecclésiaste 4, verset 4. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et poursuite du vent. Oui. On pourrait déprimer, hein, avec ce verset, hein. D'ailleurs, quand on lit certains textes, certains passages de l'Ecclésiaste, on sent que celui qui était là, peut-être il était déprimé quand il a écrit cela, mais il y a là une réalité qui existe, qui est bien de nos jours encore, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. Et pour reprendre le sujet qui nous concerne, il en est ainsi, eh bien, de l'excellence. Un autre problème avec l'excellence, c'est qu'on pourrait tomber dans un certain légalisme de critères. Ce n'est plus le légalisme dû, vous savez, à l'observance de la loi de Moïse. Ce sont un légalisme qui serait le produit de critères de référence, de qualité qu'on se serait fixé. Et si on n'atteint pas ces critères de qualité, si on n'atteint pas ces critères, ces hauts critères de référence, ces hauts critères de qualité, c'est qu'alors on n'est pas un bon chrétien. Alors là, je dis attention aux exigences qu'on se pose. Ça, vous savez, c'est l'excellence selon le monde. Attention aux exigences que l'on se pose ou qu'on voudrait nous imposer, parce que quelqu'un pourrait aussi nous imposer des exigences en disant « Il faut que tu sois excellent, voici les exigences qui se te sont demandées. » Doit-il en être ainsi dans l'Église? La question est posée. Attention au gourou, je le dirai. L'apôtre Paul a résisté aux exigences qui lui étaient, qu'on aurait voulu lui imposer. Il le dit dans les Galates. Il dit qu'ils ont résisté à certaines exigences. Parce qu'on pourrait, c'est tellement pernicieux, on pourrait tomber alors ici dans un légalisme dû à des exigences, mais on n'est plus ainsi dans la vie de l'esprit. On n'est plus dans la vie de l'esprit. Alors parlons de l'excellence selon Dieu. D'abord, l'excellence selon Dieu, elle est due à un cœur qui recherche la gloire de Dieu. Non pas un cœur qui recherche la gloire humaine pour être vu, pour être admiré, pour qu'on puisse dire « Ah, ça c'est un bon chrétien, ça c'est un bon serviteur », mais qu'au travers de ce que nous faisons, que ce soit Dieu qui en soit glorifié. Aussi, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens dans sa première épître et au chapitre 10, verset 31, il dira ceci, je vais le lire. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ça, c'est le premier point de l'exigence, de l'excellence. Faire tout pour la gloire de Dieu. Faire tout pour la gloire de Dieu. Comme avait écrit en son temps un psalmiste, dans le psaume 45, verset 2, « mon œuvre est pour le roi. » Alléluia. Notre œuvre, notre service, notre vie, elle est pour le roi des rois, pour le seigneur des seigneurs, pour la gloire de celui qui nous a rachetés par son sang précieux. Il est donc clair et net que l'humilité est indispensable pour atteindre l'excellence selon Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Comment donc atteindre l'excellence selon Dieu? Si on œuvre sans le Seigneur, cela donc commence bien par une humilité, l'acceptation de la présence de Jésus dans nos vies, de la présence de Jésus dans nos cœurs, de sa parole en nous qui influence, qui imprègne toute notre être. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », a dit Jésus. L'apôtre Paul dira encore aux Corinthiens, au chapitre 3 de sa deuxième épître, au chapitre 3, il dira aussi ceci, verset 5, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » L'apôtre Paul dira bien, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. » Et ça, c'est le problème de l'excellence selon le monde, parce que ça vient de nous et on s'en glorifie. Mais il précise, notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Qui sommes-nous? Nous avons été créés par notre Seigneur. Et les talents qu'il nous donne, les dons qu'il nous communique pour le servir, nous viennent de lui, elles ne nous viennent pas de nous. Bien sûr, on y travaille. Mais notre capacité vient du Seigneur. Citons comme exemple deux hommes de l'Ancien Testament, Betsaël et Oholiab. On voit ça, par exemple, dans Exode 36, mais il y a d'autres passages dans le livre de l'Exode qui nous parlent de ces hommes-là. Moïse avait reçu le plan du tabernacle avec tous les détails du plan du tabernacle. Mais il fallait mettre en œuvre ce plan-là. Il fallait construire le tabernacle. Je ne sais pas si un jour vous avez vu un plan d'architecte pour une maison. Bon, ben, on voit le plan, on voit comment la maison est faite, les côtes, les différentes mesures, etc. Oui, mais c'est bien beau d'avoir le plan. Mais comment on fait? Si on n'est pas du bâtiment, oui, ça ne s'invente pas. Hein. Or, comprenons bien que ça ne s'était jamais fait de construire un tabernacle comme ça. Ça ne s'était jamais fait. Et là, ce n'était pas pour n'importe qui, c'était quand même pour le Seigneur. Or, il est dit de Betsaël et Oholiab que Dieu a rendu capables ces hommes pour avoir l'intelligence et la capacité de savoir faire ce que Moïse leur a communiqué dans le plan qu'il a reçu. Ces hommes ont été rendus capables et ils ont pu donc faire ces choses d'une manière excellente. Excellente. C'est Dieu qui les a rendus ainsi capables. Le Seigneur a commencé une œuvre dans nos cœurs et cette œuvre a commencé dans nos cœurs le jour de notre conversion, le jour où nous avons dit oui au Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul dira aux Philippiens que cette œuvre qu'il a commencée en nous, il la rendra parfaite. Que son nom soit béni. C'est son œuvre en nous. Alors, il nous faut quand même parler de la perfection. Je parle de l'excellence, mais parlons de la perfection. Est-ce que vous est-il déjà arrivé d'avoir l'excellente note, je m'adresse aux étudiants et aux anciens étudiants, d'avoir l'excellente note de 9,9 sur 10? Ce serait bien hein, d'avoir une bonne note comme ça, une excellente note. Ce n'est même pas une bonne note, c'est même pas une très bonne note, c'est une excellente note. 9,9 sur 10. On serait content hein, de ramener dans notre sac eh bien, une aussi belle note. Sauf que ce n'est pas parfait. Ça serait parfait. Ce n'est pas 9,9 sur 10 que vous auriez eu. Ça serait parfait. Ça serait 10 sur 10. On va devenir, on va pas chipoter. Hein. Peut-être qu'il y avait une virgule qui était mal placée. Voilà. Et je me rappelle quand nos filles étaient à l'école, qu'elles avaient le plaisir de nous ramener des bonnes notes. Les mauvaises, elles les cachaient. Hein. Non, je plaisante. Mais on est moins fiers quand on a une mauvaise note. Hein. Mais quand on a une bonne note, on les amène en courant. Ah oui, bonne note, 16 sur 20. Ah, moi, je chipotais toujours. Ouais, mais c'est où les 4 points qui manquent, là, hein? Oh, bien sûr, on le félicite. 9,9 sur 10. Mais il y a eu quand même une petite erreur, ou alors peut-être un défaut de présentation. Il y a eu quelque chose qui a fait que le professeur, l'instituteur, n'a pas mis 10 sur 10. C'est là la différence entre l'excellence et la perfection. Dans la perfection, il n'y a rien à redire. Tout est correct. Tout est parfait. Il n'y a rien d'irréprochable. Il n'y a rien à redire. Tout va bien. Dans l'excellence, il n'y a pas forcément la perfection. Dans l'excellence, il n'y a pas forcément... C'est excellent, oui. Mais ce n'est pas forcément parfait. Tout ce qui est parfait est excellent. Mais tout ce qui est excellent n'est pas forcément parfait. Aussi, cette jonction, jonction entre la perfection et l'excellence, elle se trouve en Christ uniquement. L'apôtre Paul dira que nous sommes parfaits en Christ. Il le dira. Nous sommes parfaits en Christ. J'aimerais lire avec vous encore un autre passage dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Oui. Dans ce chapitre 4, au début du chapitre 4, jusqu'à la moitié environ, l'apôtre Paul parle de l'Église et il parle aussi des ministères que Dieu a donnés à l'Église. Il parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs et le but de ces ministères, le but pourquoi Dieu a donné ces ministères à l'Église et l'objectif de Dieu, on voit au verset 12 par exemple que ces ministères ont été donnés pour le perfectionnement, donc ils se perfectionnent, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ, jusqu'à ce que, il y a ce jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça que Dieu vise pour nous. Il n'y a pas mieux. Cherchez pas, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas plus parfait. Il n'y a pas plus parfait que notre Seigneur, il est Dieu. Et si nous voulons être excellents, c'est ça que nous visons. Nous ne visons pas l'excellence pour l'excellence, nous visons la perfection qui est en Christ. Et si nous avons à nous mesurer, parce que le problème parfois, comme je le disais tout à l'heure, de cette excellence selon le monde, c'est qu'on se compare aux autres. Et dans cette comparaison, cela entraîne des jalousies, cela peut entraîner certains complexes, cela peut aussi amener à écraser l'autre. Ah, moi, je suis plus excellent que toi, hein. T'as rien à dire. Puis on se fait valoir, peut-être auprès de ses supérieurs hiérarchiques, on se fait valoir ainsi auprès de ses patrons pour écraser l'autre. Mais là, c'est pas le but. En fin de compte, le seul à qui nous devons nous comparer, c'est Jésus. Tout. La barre est très haute, hein, vous allez me dire. Jusqu'à ce que nous soyons à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais ça, c'est impossible à atteindre, frères et sœurs. C'est impossible à atteindre sans l'efficacité du Saint-Esprit dans nos vies. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans l'assistance du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans la parole de Dieu, on ne peut rien faire. On ne pourra pas atteindre cette perfection qui est en Christ. Quand Jésus dira « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait », ouf, il place la barre haute. Hein. Mais à l'état que nous sommes rendus en Christ, oui, nous sommes parfaits. Donc forcément, si nous sommes parfaits en Christ, nous sommes excellents. Alors on comprend peut-être pourquoi l'apôtre Paul avait écrit cela aux Corinthiens, malgré que dans cette église aux Corinthiens, il y avait des choses à rectifier. Il parle de la foi, mais quand on voit ce qui se passait au niveau de la foi chez les Corinthiens, il parle de l'amour, on va en parler, ou peut-être dimanche prochain, parce que je pense que je n'aurai pas le temps ce matin, mais voilà. Il dit, parlant de l'amour, l'apôtre Paul dira que c'est la voie par excellence aux Corinthiens. Et il les invite à marcher dans cette voie par excellence. Mais dans la mesure où nous sommes, où nous marchons de progrès en progrès, dans la mesure où nous continuons notre marche sans nous arrêter, dans cette mesure-là, oui, nous pouvons le dire, qu'en Christ et seulement en lui, nous sommes parfaits. Car nous le voyons bien déjà dans notre propre vie, il y a encore des choses. Il y a encore des choses où le Saint-Esprit a besoin de travailler, de nous modeler, de nous façonner, afin que nous soyons rendus à cette stature parfaite de Christ. C'est ce que Dieu veut faire en nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne pourra pas se faire avec des exigences humaines en disant « il faut que tu te comportes ainsi ». Attention aux exigences qu'on voudrait nous imposer, qui ne sont pas des exigences selon l'Esprit, mais qui sont des exigences selon l'homme et qui tuent la vie de l'Esprit, qui tuent la vie de l'Esprit. Que nous soyons tous ensemble, eh bien, en rechercher cette stature parfaite de Christ, puissions-nous le ressembler à Jésus, comme l'apôtre Paul avait pu l'écrire par ailleurs, comme il écrit aussi aux Philippiens d'avoir en nous les sentiments de Jésus-Christ. Avant de parler d'excellence dans le domaine technique, avant de parler d'excellence dans le service, il nous faut quand même parler d'excellence du cœur. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'excellence dans le service s'il n'y a pas d'excellence du cœur. Il peut y avoir une compétence qui se met en œuvre, oui. Il peut y avoir des choses qui soient bien faites, oui. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'excellence du cœur. Or, parfois, nous attachons plus d'importance à ce qui est bien fait plutôt à celui qui l'a fait. Or, le Seigneur nous invite vraiment les uns les autres à regarder non pas à l'apparence, mais à regarder au cœur. Lui seul voit vraiment et véritablement ce qui se passe dans le cœur. Parce qu'un autre problème de l'excellence selon le monde, c'est qu'elle regarde aux apparences. Et c'est tout. Et c'est tout. Elle ne va pas au-delà. Aussi, peut-être que certains seraient félicités, certains seraient admirés, certains seraient glorifiés, et en fin de compte, ne le seraient pas par notre Seigneur. Il pourrait même dire, je ne vous ai jamais connu. Certains ont été excellents, mais n'ont pas été connus par le Seigneur. Ils vont arriver devant le Seigneur et dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom ? C'est pas excellent, ça? C'est excellent. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est pas excellent, ça? Oui, c'est excellent. Mais qu'est-ce que leur dira le Seigneur? Je vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Comme quoi on peut faire même des choses remarquables, extraordinaires, qui vont attirer même des foules autour de nous, mais on ne trompe pas le Seigneur. Et le Seigneur ne les a jamais connus. Pourquoi? De leur cœur qui n'est pas prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Or, pour revenir aux Corinthiens, oui, il y avait des choses à rectifier dans cette église. Oui, il y avait des choses graves. Oui, nous, on n'aurait pas osé peut-être dire qu'ils excellaient. Mais ce que l'on remarque chez les Corinthiens, c'est que, et l'apôtre Paul le dit bien, c'est que les lettres, les épîtres que Paul a adressées aux Corinthiens, ces lettres-là ont produit dans leur cœur une tristesse selon Dieu. Ils se sont laissés reprendre. Oui, il y avait des lacunes dans leur foi. Oui, il y avait des lacunes dans leur amour. Mais ils ont pris note de ce que Paul leur a dit. Et non seulement ils ont pris note, mais ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour changer de comportement. Et c'est ça, en fin de compte. David était un homme selon le cœur de Dieu. Non pas que David fut un homme sans faille, il a eu ses failles. Mais David, non seulement était un homme de foi, il avait la crainte de Dieu, mais David se laissait reprendre par le Seigneur, tout roi qu'il était. David savait se repentir quand cela était nécessaire, mais, j'allais dire, non seulement il savait se repentir, mais il savait produire du fruit digne de la repentance, comme l'ont aussi produit les Corinthiens. Alors peut-être qu'une petite minorité de Corinthiens n'ont pas reçu ce message de Paul. Peut-être que quelques-uns ne se sont pas repentis suite à ce que l'apôtre Paul avait pu dire, mais une minorité ne veut pas dire l'ensemble. Comprenons bien les choses. C'est leur responsabilité devant Dieu. Alors que le Seigneur nous aide les uns les autres à, oui, disons-le, viser l'excellence, mais cette excellence selon Dieu qui n'exige rien, mais c'est l'œuvre du Seigneur dans nos cœurs. C'est lui qui nous façonne, c'est lui qui nous rend capables, comme dit l'apôtre Paul, de le servir, c'est lui qui nous rend capables de le suivre, c'est lui qui nous façonne. Nous n'avons qu'à accepter dans la foi et dans l'obéissance de la foi que Dieu soit glorifié. Amen. On va ensemble prier notre Seigneur. On verra la suite dimanche prochain parce qu'il y en a rien encore pour une bonne demi-heure. Et on va laisser ça à dimanche prochain. Que le Seigneur nous aide. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Et nous voulons qu'elle fasse son œuvre dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. C'est toi qui enlèves de nos vies toute mauvaise conception, Seigneur, de ce que tu attends de nous, toutes ces exigences que nous pouvons nous-mêmes nous imposer en essayant de devenir des bons chrétiens. Mais Seigneur, nous voulons plutôt te laisser agir dans nos cœurs, te laisser faire dans nos vies, Seigneur, et nous tourner résolument vers toi. T'accepter, Seigneur, dans nos cœurs et accepter ta parole dans nos vies, dans la foi. Seigneur, merci pour ce que tu fais avec nous. Merci pour ton Église, Seigneur, cette Église, Seigneur, que tu aimes, cette Église que tu façonnes, cette Église pour laquelle tu es monté sur la croix, tu t'es donné, afin de la faire paraître devant toi sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Cette Église belle que tu veux pour toi, cette Église que tu façonnes pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Amen.